Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la question israélo-palestinienne. 50 ans après la guerre des six jours, c'était en juin 1967, une offensive éclair contre les armées arabes qui a permis à Israël de prendre une partie de la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, le plateau du Golan à la Syrie, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie. Des conquêtes militaires qui ont profondément changé la donne dans la région avec la poursuite par les gouvernements successifs d'une politique d'implantation de civils juifs israéliens et de confiscation des terres. Les accords d'Oslo signés en 1993 n'ont pas permis une paix durable, notamment en raison de la poursuite de la colonisation, un mouvement qui perdure au mépris du droit international et des condamnations internationales auxquelles viennent s'ajouter les incertitudes quant à la politique du nouveau président américain. Regard avec nos invités, Jean-Paul Chagnelot, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient et de leur revue Confluence Méditerranée, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, paru chez Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur avec Bertrand Badi de l'État du Monde aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
À part le Sinaï rendu à l'Égypte et une partie du Golan rendu à la Syrie, les territoires conquis en 1967 sont toujours sous domination israélienne. Pour mémoire, Israël a signé la 4e convention de Genève de 1949, laquelle stipule qu'une puissance occupante n'est pas souveraine. Comment en est-on toujours là? Quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans cette situation? Quel est finalement l'héritage aujourd'hui de cette guerre des six jours et quelles leçons tirées de ce qui s'est passé depuis 50 ans?
Écoutez, je crois qu'on peut dire en tout cas que la guerre de 1967 est un des grands tournants de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je voudrais profiter pour dire à vos auditeurs, s'ils ne l'ont pas remarqué, que la Palestine est abonnée au chiffre 7. Donc en 1897, oui. C'est le premier congrès sioniste qui décide de créer un État ou un foyer juif en Palestine. En 1917, c'est la déclaration Balfour qui donne l'appui de la Grande-Bretagne à cette opération. On a ensuite, 1947, le partage de la Palestine par l'ONU. On a 67, je vais y revenir, la guerre des six jours. Et on a 77, qui est l'arrivée de la droite israélienne pour la première fois au pouvoir. Et puis, 87, la première intifada. Donc il y a vraiment un phénomène curieux, une espèce d'alignement des astres autour du chiffre 7. Pourquoi 67, c'est donc un tournant? Parce que, d'abord, Israël quadruple son territoire, il faut le rappeler. S'empare du Golan, qu'il va plus tard annexer, du Sinaï qu'il va rendre, et puis du reste de la Palestine. Et j'insiste au mot « reste ». Parce que jusque-là, la ville de Jérusalem-Est, la ville arabe de Jérusalem, et la Cisjordanie étaient aux mains de la Jordanie qui les avait annexées, et la bande de Gaza était occupée par l'Égypte. Donc, par exemple, je fais cette hypothèse absurde parce qu'elle n'a pas eu lieu, les États arabes auraient pu créer un État palestinien dans cette période, ils ne l'ont pas fait. À partir de là, à partir de 67, ça n'est plus possible. Israël devient le seul responsable du sort de la Palestine. Et évidemment, c'est à la fois un avantage énorme du point de vue stratégique, mais aussi un point de faiblesse qui va permettre à la communauté internationale progressivement de dessiner une perspective de solution sur laquelle on va certainement discuter, qui est la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Les Palestiniens se déclarent favorables à cette perspective, disons, à partir de 1974, après des expériences douloureuses, et les Israéliens, officiellement, ne s'y rallient, et encore que du bout des doigts, qu'en 1993.
93, donc, c'est ce qu'on évoquait en introduction, la question des accords d'Oslo.
Absolument.
Ça qu'il faut entendre. Jean-Paul Chagnelot.
Moi, je crois qu'on peut, en reprenant l'idée des sept, là, en fait, il y a des séquences dans la question israélo-palestinienne. Et je crois que c'est important de les avoir à l'esprit. Bien entendu, on peut discuter de la pertinence des séquences que je vais évoquer. Mais la première séquence, c'est l'époque, disons, décolonisation, hein. C'est-à-dire entre 1920 et 1948. C'est l'époque des mandats et tout ça. Donc c'est une première période qui est la période fondatrice pour bien des problèmes et en particulier la question israélo-palestinienne. Cette séquence, elle s'arrête brutalement en 1947-48. Elle aurait pu se produire autrement avec un plan de partage qui aurait été respecté. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc s'ouvre une deuxième séquence qui va de la guerre de 48 à la guerre de 67. Et là, c'est très intéressant. Ça devient non pas un conflit israélo-palestinien, qui était un peu le cas à l'époque du mandat. C'était pas israélo-palestinien, mais entre juifs et arabes, comme on disait à l'époque. Donc à partir de 48, jusqu'en 67, on ne va parler que d'un conflit israélo-arabe. Et c'est un conflit interétatique. Et les Palestiniens ont totalement disparu de l'histoire. On parle que des réfugiés. Et même dans la résolution de 242 de novembre 1967, le mot palestinien n'y est pas. On dit simplement il faudra trouver un juste règlement des réfugiés, sans préciser que ce sont des réfugiés palestiniens. Et donc, à partir de 67, s'ouvre une troisième séquence qui va aller au moins jusqu'à Oslo. Et cette troisième séquence, on va l'appeler un conflit israélo-palestinien. Mmh. C'est tout d'un coup l'échec foudroyant de Nasser et donc du nationalisme arabe qui ensevelissait littéralement toute forme de nationalisme palestinien. Eh bien, cet échec va libérer justement un espace idéologique et politique considérable pour l'idéologie palestinienne, pour d'autres choses, en particulier aussi pour l'idéologie islamiste, qui va avoir surgi dans les années suivantes. Mais là, c'est vraiment les Palestiniens, en l'espace de 2 ans, entre 1967 et 1969, se sont réaffirmés à travers l'OLP dont ils prennent le pouvoir, car il ne faut pas oublier que l'OLP a été créée par Nasser, par les régimes arabes. Et donc, on a Arafat qui prend le pouvoir au sein de l'OLP en février 1969. Il y a la bataille de Karamé, et il y a toute une génération de jeunes Palestiniens qui s'engouffrent là-dedans. Donc on a vraiment 67, c'est parmi bien autre chose, la naissance ou la renaissance du nationalisme et de l'identité palestinienne.
Dominique Vidal.
Je voudrais revenir un tout petit peu sur 67 même, parce qu'il y a une clé de tout ce qui va se passer ensuite. À l'époque, Abba Eban, qui était le ministre des Affaires étrangères presque éternel d'Israël, disait « Mais ne vous inquiétez pas, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, c'est une carte à jouer dans la négociation. On n'en saura jamais rien puisqu'il n'y a pas eu de négociation, y compris du fait du triple refus arabe de Khartoum. » Mais dès la fin juin 67, Israël annexe Jérusalem-Est pour la réunir à Jérusalem-Ouest, en faire sa capitale. Et en juillet, Yigal Alon, un des hommes importants de toute la hiérarchie militaire et politique israélienne de l'époque, lance un premier plan de colonisation, qui à l'époque est essentiellement un plan de colonisation militaire dans la zone de la vallée du Jourdain. Mais le fait est que se met en marche à ce moment-là un processus de colonisation qui, de zéro colon à l'époque de juin 67, nous amène aujourd'hui, révélation du journal Haaretz, il y a quelques jours, à 700 000 colons entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est pour dire que le point de départ de l'impasse dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, c'est la décision unilatérale et parfaitement prise de sang-froid de s'engager dans ce processus. Ce qui est nouveau, et on va y revenir, je m'arrête là, c'est que nous sommes peut-être en train d'entrer dans un nouveau tournant qui fait que la direction de droite et d'extrême droite du gouvernement israélien envisage de passer de cette colonisation massive et accélérée à une phase, elle le dit ouvertement, d'annexion. Et une loi a été votée par la Knesset qui n'est pas encore validée par la Cour suprême, donc il faut quand même un peu de prudence dans l'analyse. Mais cette loi, si elle est validée, elle ouvre la voie à une annexion de l'ensemble de ce qu'on appelle les avant-postes, les colonies illégales même aux yeux du droit israélien, mais aussi de la zone C, voire, si l'on écoute Naftali Bennett, qui est le porteur de ce projet de loi adopté le 6 février dernier, une annexion de toute la Cisjordanie. Ce Bennett déclare à l'époque « Nous devons donner nos vies pour l'annexion de la Cisjordanie ».
Alors, dans tout cela, oui, Jean-Paul Chagnolot, vous souhaitez rajouter quelque chose, mais j'aimerais qu'on parle du rôle de la communauté internationale, et j'aurais souhaité peut-être revenir sur ce que Dominique Vidal évoquait quant à la possibilité de créer un État palestinien, ce que n'ont pas fait les États arabes avant 1967, mais je vous laisse peut-être...
Simplement, je crois que quand on parle de la colonisation, moi, je tiens beaucoup à cette idée de séquence que j'évoquais tout à l'heure. Je parlais du conflit israélo-arabe jusqu'en 67, puis du conflit israélo-palestinien, retour à la question palestinienne à partir de 67. Et sur la colonisation, quand Dominique Vidal évoque les semaines qui ont suivi 67, c'est tout à fait vrai. Sauf que moi, je fais une distinction entre le Parti travailliste et le Likoud. Je pense que l'accélération de la colonisation date non pas de 67, mais de 77. Parce que le plan vraiment massif...
Arrivé de la droite, on est d'accord.
Qui est l'arrivée de Menahem Begin au pouvoir et du Likoud, et où Menahem Begin dit « Ces territoires ne sont pas occupés, ils sont libérés ». Et à partir de là, il exhorte tous les nationalistes à venir s'installer dans ce qu'il appelle la Judée-Samarie. Et par conséquent, on une accélération avec un plan qui est un plan très important, qui prévoyait en 1978-19, au moment des accords de Camp David avec l'Égypte, c'est-à-dire qu'on fait la paix avec l'Égypte pour être tranquille sur le plan militaire et géopolitique, et on accélère la colonisation, et ce plan est dirigé en dernière instance par Sharon, qui est déjà à ce moment-là au pouvoir. Il prévoit 1 million de colons pour l'année 2000, je veux dire, on est vraiment dans cette dimension-là. Après, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération considérable, et je pense que nous sommes aujourd'hui, depuis l'échec d'Oslo, c'est-à-dire en gros depuis l'année 2000-2001, je pense qu'on est entré dans une phase qui est une séquence que je qualifierais de néocoloniale, c'est-à-dire où l'essentiel n'est plus un affrontement politique ou géopolitique et encore moins interétatique, mais c'est un conflit de nature coloniale, avec tout ce que cela implique, à la fois la dépossession foncière systématique de ce que je vais appeler, avec beaucoup de difficultés et beaucoup de guillemets, des indigènes, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les terres des Palestiniens. Sur le plan idéologique, il y a un rapport de mépris, d'arrogance et de négation complète de l'autre. On est vraiment dans cette zone-là. Et puis, évidemment, une discrimination systématique qui existait bien avant, mais là, qui est devenue presque structurelle. Donc, je veux dire, on est vraiment dans une phase qui est néocoloniale, une sorte de colonisation d'un autre âge. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça. Et on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, alors qu'elle s'est installée. Elle était évidemment présente bien avant, bien avant. Mais depuis, disons, 2001-2002, c'est-à-dire depuis cette rupture, ça s'est considérablement accéléré avec les chiffres que donnait Dominique. Et puis, juste un dernier mot. La colonisation, autrefois, était légale du point de vue du droit international, parce que ce sont les puissances occidentales qui étaient les maîtresses du droit international. Et donc, elles avaient le monopole de la production normative. Aujourd'hui, c'en est fini, et la colonisation, c'est illégal à tous égards. Et il y a, non seulement par rapport à la Convention de Genève que vous évoquiez, par rapport à la Charte des Nations Unies, bien entendu, mais aussi par rapport à la justice pénale. Par exemple, transférer ces citoyens d'une puissance occupante sur un territoire occupé, c'est ni plus ni moins, d'après les statuts de la Cour pénale internationale, un crime de guerre. Mmh. Donc nous sommes dans une espèce de contradiction fondamentale, ou dans une séquence de colonisation d'un autre âge, avec une illégalité internationale absolue qui nous renvoie aux années 20. Quoi.
Alors, comment qualifier, dans ce que vient de décrire Jean-Paul Chagnolleau, Dominique Vidal, la communauté internationale et son rôle?
Si vous me permettez juste une précision, parce qu'elle est importante, on ne peut pas parler du Parti travailliste, ou d'un meilleur du Likoud, comme de structure éternelle.
Bien sûr.
Le Parti travailliste est, malgré tout, porteur d'une alternative de solution jusqu'à l'assassinat d'Yitzhak Rabin.
En 1995.
Donc jusque-là, on est dans un parti travailliste qui est très mou, mais il est encore porteur. À partir de l'assassinat de Rabin, on rentre dans une dégénérescence du parti travailliste qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans sa plateforme, il n'y a plus le projet d'État palestinien aux côtés de l'État d'Israël dans les conditions...
Et puis il n'existe plus sur le plan parlementaire.
Voilà. Le blanc-bonnet et bonnet-blanc n'était certainement pas valable jusqu'en 95, mais à partir des années 2000, on est vraiment devant un parti travailliste inexistant et qui fait la même politique. Cela dit, pour répondre à votre question, je dirais qu'à partir de la guerre des six jours et de la résolution 242 du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité, la communauté internationale va progressivement, je dirais, mettre en œuvre un projet de solution autour de l'idée des deux États, avec toute une série d'étapes, l'étape évidemment d'Oslo étant une étape majeure. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr qu'aujourd'hui, cette perspective-là reste la seule disponible, parce qu'il n'y a pas d'autre solution proposée par la communauté internationale et qui soit susceptible de faire un jour ou l'autre consensus, au niveau régional et au niveau international. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui parlent d'un seul État, c'est un débat intéressant, c'est un débat utile, mais on n'est pas dans le schéma qui est celui réaliste, faisable, de la communauté internationale. Admettons que Naftali Bennett arrive au bout de son projet, la Cour suprême valide, on annexe jusqu'à l'ensemble de la Cisjordanie, quid des Palestiniens annexés avec leurs terres. Donc ça, ou bien on a un État qui sera virtuellement plus un État juif, qui sera un État majorité arabe, ou bien on aura un État d'apartheid qui n'est pas acceptable, en théorie en tout cas, par la communauté internationale. Ce que je veux dire, et je m'arrête là, c'est qu'on ne peut pas non plus, tout en réaffirmant cette perspective, ne pas souligner les obstacles qui s'accumulent devant cette solution. Il y en a quatre. Premier obstacle, je viens d'en parler, la radicalisation de la droite et de l'extrême droite israélienne qui est en train de sortir officiellement du paradigme des deux États. Deuxièmement, l'inconnu total de la politique de Trump. On sait ce qu'il veut faire au Moyen-Orient avec l'alliance israélo-américano-sunnite contre l'Iran, mais ce qu'il veut faire d'Israël-Palestine, on n'en sait rien. Il ne parle pas de colonisation quand il vient à Bethléem. Il ne parle pas de deux États. Il ne mentionne pas la formule. Et quand il reçoit Netanyahou à Washington, il a cette espèce de formule bizarre où il dit un État, deux États, mettez-vous d'accord, moi je serai d'accord. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la diplomatie américaine depuis 67 qu'on renonce à cette perspective. Troisième obstacle, c'est la division entre Fatah et Hamas. C'est-à-dire que cet État palestinien à venir, il n'a pas un mouvement national palestinien uni comme il l'a été, disons, jusqu'à la mort d'Arafat, pour aller vite. Et par conséquent, c'est un obstacle important au jour le jour. Israël, évidemment, profite de cette division. Et dernier point, c'est ce dont j'ai parlé de la stratégie de Trump, c'est-à-dire que Trump est en train de faire entrer les pays arabes sunnites, Arabie saoudite en tête, dans une alliance anti-iranienne qui, évidemment, allège d'autant la pression sur Israël. Et il ne faut pas sous-estimer cette affaire. Quand on voit la crise du Qatar, mesure bien que les préoccupations du monde arabe, qui sont déjà prises en Syrie, qui sont déjà prises en Irak, etc., elles sont ailleurs que sur la question palestinienne. On peut dire qu'il y a aujourd'hui une alliance virtuelle qui s'est créée entre Israël, les pays arabes sunnites sous l'égide américaine. Donc autant d'obstacles à la perspective des deux États qui rend l'intervention de la communauté internationale absolument décisive. C'est-à-dire si la pression n'est pas renforcée, y compris avec des domaines de sanctions à l'égard des violations du droit international et des résolutions de l'ONU, d'où viendra la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël? Il y a là vraiment des questions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une période, à mon avis, on peut souligner, analyser et essayer de dégager des voies qui permettent de poursuivre le combat pour une solution qui est de toute évidence la seule disponible en magasin, si je peux dire.
Alors, il est vrai que le contexte régional est plutôt favorable à Israël aujourd'hui. On le développera peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Le rôle de la communauté internationale, Dominique Vidal l'évoquait, on peut souligner aussi la présence cette semaine en Israël de Jared Kushner, le gendre et proche conseiller de Donald Trump, et également l'émissaire spécial américain pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, et la question de l'ambassade des États-Unis, le transfert éventuel, il ne semble plus en être question aujourd'hui. En tout cas, voilà, on sent bien que Donald Trump est en train de s'informer, se renseigner, voyager autour de la question. Un commentaire, Jean-Paul Chagnolot, pour terminer cette première partie d'émission. On redéveloppera peut-être alors l'inconnu Trump, c'est vrai qu'elle est parmi les éléments qui sont des éléments d'incertitude et des obstacles qui s'accumulent pour la création de deux États et la division de la question palestinienne. Jean-Paul Chagnolot, un commentaire.
Et moi, je crois qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question dans le court terme, l'actualité, et puis dans le long terme. La défaite du vainqueur, quand je dis Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue comme ça, et on va continuer comme ça très probablement, malheureusement, on est dans une espèce de négation de tout ce que, au fond, le sionisme à ses origines voulait. Il voulait un État, il voulait un toit politique pour protéger, je parle de cette formule du toit politique, pour protéger le peuple juif. Bon. Or, aujourd'hui, et donc ça signifiait une quête d'État. Or, depuis 67, nous sommes plus dans une quête d'État, nous sommes dans une conquête. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est une dégénérescence, ou plutôt c'est la version d'ombre du nationalisme qu'est le sionisme. Et tout nationalisme a sa version de lumière et d'ombre. La lumière, c'est la libération, et l'ombre, c'est évidemment l'oppression quand on veut s'imposer aux autres. Donc on est dans la conquête. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va droit, dans les temps qui viennent, si ça continue, vers un système qui existe déjà, de discrimination systématique, d'apartheid, et donc on produit de la violence avec tout ce que ça implique, à coup sûr. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette conscience-là à long terme. C'est pour ça que je parle de défaite du vainqueur. Maintenant, sur le plan de la communauté internationale, on va y revenir tout à l'heure.
Dans la deuxième partie de l'émission.
Voilà, si parce que je voudrais qu'on parle des résolutions récentes qui me paraissent très importantes.
Juste une phrase qui ne sera pas longue. On dit toujours que les assassins reviennent sur les lieux de leurs crimes. C'est ce que vient de faire Ehud Barak, qui est, j'exagère en disant assassin, mais l'homme qui a donné le coup de poignard définitif dans l'impossibilité des deux États, en faisant échec au sommet de Camp David dans des conditions qu'on sait pendant le mois de juillet 2000. Eh bien, lui qui a pris cette responsabilité à l'époque, il vient de faire une déclaration pour s'inquiéter et s'indigner que le gouvernement israélien nous mène vers une situation d'apartheid. Donc il est assez curieux de voir celui qui a contribué à cette évolution venir s'en indigner aussi fortement.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Dominique Vidal et Jean-Paul Chagnolot dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la question israélo-palestinienne. 50 ans après la guerre des six jours, nous retrouvons nos invités. Jean-Paul Chagnolo, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient et de la revue Confluence Méditerranée, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, paru chez Actes Sud, et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur avec Bertrand Badi de l'État du Monde aux éditions La Découverte. Jean-Paul Chagnolo, depuis 1967, la communauté internationale a condamné à plusieurs reprises l'illégalité des colonies en Palestine avec des résolutions votées à l'ONU comme au sein de l'Union européenne sans aucun effet. Le 23 décembre dernier, donc 2016, une résolution historique du Conseil de sécurité a été adoptée demandant à Israël de mettre fin immédiatement et totalement à ses activités d'implantation en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Les Américains n'ont pas opposé leur veto sur le rôle de la communauté internationale.
J'hésite entre deux mots, démission ou complicité. En fait, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que il y a effectivement des initiatives qui ont été prises et qui ont été régulièrement oubliées dès lors qu'il s'agit de passer à l'acte, ce qui veut dire évidemment quelque part faire pression sur les acteurs et en particulier sur le plus puissant d'entre eux. Nous sommes pas dans un conflit qui est sur le même plan. Il y a une asymétrie fondamentale qu'il faut à chaque fois rappeler entre une puissance occupante et un peuple occupé. Et par conséquent, quand on entend tel ou tel homme politique en France notamment dire il faut qu'il négocie, ça n'a pas de sens, parce que vous ne pouvez pas négocier dans une situation d'asymétrie pareille. Et quand je dis complicité, c'est que, en fait, si vous regardez la carte des États qui, dans le monde, ont reconnu l'État de Palestine depuis 1988, et depuis la proclamation à Alger de l'État de Palestine, qui faisait référence au plan de partage de 1947, il faut quand même le rappeler, c'est quand même très important.
Et à la résolution de 142.
Oui, mais le 47 est encore plus important, parce partage, que c'était le partage, et donc la reconnaissance de l'État d'Israël, tout de même, implicitement au moins, c'est tout à fait fondamental. Et donc, ce plan de partage a été complètement oublié dès lors qu'on veut passer à une pression. Alors, si je reprends la 2334, il y a deux choses fondamentales dans la 2334, c'est-à-dire la résolution du 23 décembre qui a été votée il y a quelques semaines maintenant. Il y a deux choses. Il y a d'abord le rappel que c'est une occupation, avec une phrase qui fait débuter la résolution qui consiste à dire que nous sommes dans une situation d'occupation au sens du droit international et de la Convention de Genève. Et puis, d'autre part, il y a l'idée qu'il faut arrêter complètement la colonisation, sinon il n'y aura plus de possibilité d'État palestinien. Et je reviens à ce que je disais sur l'idée que nous avons aujourd'hui une reconnaissance de l'État de Palestine par l'ensemble du monde, sauf l'Occident. Si vous regardez la carte, sauf l'Occident et ses alliés, c'est-à-dire le Japon par exemple. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois une démission et en même temps une complicité, parce que l'Occident aujourd'hui, l'Europe, sauf la Suède maintenant, les États-Unis, le Canada, ne veulent pas entendre parler d'une reconnaissance de l'État de Palestine et ne feront rien pour faire pression sur Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on revient à l'histoire, que Israël, quelque part, est une sorte de, un morceau de, d'Occident. Elle est complètement liée à l'Occident. Et par conséquent, les Palestiniens n'ont pas en face d'eux simplement Israël, mais ils ont en face d'eux l'Occident. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il y a une démission de la communauté internationale qui confine à la complicité dès lors que c'est l'Occident, parce que c'est quand même l'Occident qui joue un rôle important. Donc on est vraiment dans cette espèce d'ambiguïté, et je crois que c'est très important de rappeler ça. Et donc, la France en particulier aurait un rôle à jouer, justement parce qu'il y a une incohérence américaine, parce qu'il y a une pusillanimité européenne. La France, aujourd'hui, aurait un rôle à jouer pour faire avancer les choses. Car si on ne le fait pas, on va vraiment vers la catastrophe. Tous ces discours sur le terrorisme, sur les violences qu'on entend partout, sont des discours qui sont quelque part un peu scandaleux, parce qu'on fait rien pour les prévenir. On fait tout, au contraire, pour laisser faire ce qui va conduire demain, dans 6 mois, dans 1 an, à des conflits extrêmement graves. Donc je crois que la communauté internationale joue avec le feu et prétend ensuite agir contre le terrorisme, alors que elle ne fait pas ce qu'il faut fondamentalement pour extirper les terreaux des violences à venir. Quand Dominique tout à l'heure parlait d'une annexion probable, ou en tout cas telle que c'est aujourd'hui une situation d'apartheid dans les territoires, on est bien évidemment dans une situation où ça crée de telles frustrations, de telles humiliations, de tels ressentiments, que ça ne peut pas ne pas conduire à des violences. Donc on est dans cette contradiction-là. Donc la responsabilité de la communauté internationale, et pour être concret, je dirais, de la France, eh bien, est considérable. Puis un dernier mot, la France a eu une initiative qui était à la fois intéressante et molle. C'était le 15 janvier dernier. Intéressante parce qu'elle a effectivement réuni beaucoup d'États et d'organisations internationales en s'appuyant sur la résolution que j'évoquais du 23 décembre 2016 pour dire il faut qu'il y ait une solution à deux États et en même temps molle parce que il n'y a aucun suivi. Autrement dit, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau important qui montre que la communauté internationale est intéressée et doit faire quelque chose et en même temps qu'elle est impuissante. Et moi je retiens malheureusement le deuxième volet et les Israéliens aujourd'hui, cette droite nationaliste au pouvoir aujourd'hui, eh bien évidemment on va s'appuyer là-dessus pour continuer et aller vers la catastrophe. Je crois vraiment qu'on est parti pour une catastrophe.
Dominique Gudal.
Entièrement d'accord avec l'analyse de Jean-Paul. J'ajouterais peut-être juste un détail, mais un détail qui compte, c'est que la France peut aussi imaginer une relance d'une initiative européenne avec l'Allemagne. Parce qu'on sent chez les Allemands une irritation de plus en plus grande à l'égard du gouvernement Netanyahou et de l'extrême droite, puisqu'il y a eu cet incident grave quand même du ministre des Affaires étrangères allemand qui, comme il avait rencontré deux ONG, B'Tselem et Breaking the Silence, s'est vu fermer la porte du premier ministre israélien. Donc je crois que c'est très important de suivre avec attention, sans préjuger, ce que le nouveau président Emmanuel Macron, ses collègues européens, et notamment la chancelière Angela Merkel, peuvent concocter comme initiative qui fasse contrepoids à la démission américaine, en tout cas jusqu'ici. Ce que je voudrais dire, c'est surtout signaler la coïncidence des dates, qui, elle, n'est pas dans le domaine du hasard. La résolution 2334 dont parle Jean-Paul, c'est le 23 décembre 2016. La conférence de Paris, qui la met en œuvre d'une certaine manière, c'est le 15 janvier.
Qui s'appuie sur elle. Elle ne met pas en œuvre, parce que si elle mettait en œuvre...
15 janvier. La loi autorisant l'annexion à terme de la Cisjordanie, 6 février. Donc on est vraiment dans un putsch de l'extrême droite israélienne, un putsch interne, parce que Bennett veut la succession de Netanyahou qui est pris dans des scandales, comme vous savez, très importants. Et je dois dire qu'il n'y a pas d'opposition entre Netanyahou et Bennett, sur le fond. Mais Netanyahou est un homme plus expérimenté, qui sait que quand Israël s'avance un peu trop à découvert dans des projets annexionnistes, il y a des risques pour l'isolement qui est le sien dans la communauté internationale. Mais le putsch, surtout, c'est un putsch contre la communauté internationale. C'est pour dire, nous n'avons rien à faire de votre résolution 2334, de votre conférence de Paris, nous, on poursuit notre chemin. Et alors, je voudrais juste ajouter un point. C'est sur quoi ça s'appuie, cette espèce de volonté déterminée, de méthode couée presque? Ça s'appuie, malheureusement, sur une opinion israélienne.
C'est la question que j'allais vous poser.
Qui suit? Voilà. Qui suit? Pourquoi elle suit? Alors, j'incite à lire le livre
de Jean-Paul,
qui vient de paraître, parce qu'il dit quelque chose de très important qu'on oublie toujours. Bien sûr qu'il y a la manipulation de la propagande, qu'aujourd'hui, tous les moyens d'expression en Israël, à part Haaretz et quelques, sont aux mains de Netanyahou. Ça fait partie des scandales. Bien sûr qu'il y a cette absence d'alternative. On parlait du Parti travailliste. Il n'y a plus en Israël de force qui porte l'idée des deux États comme une solution de paix. Mais il ne faut jamais oublier la toile de fond, qui est le fait que toute situation de guerre, tout attentat, a fortiori kamikaze, réactive dans la population israélienne le traumatisme de la Shoah. C'est évidemment quelque chose qui est utilisé, voire manipulé par les dirigeants israéliens. Mais moi, je suis frappé, ayant été là-bas après la guerre contre Gaza en 2014, de voir que tous les Israéliens que j'ai rencontrés, y compris des amis qui sont partie prenante du mouvement de la paix ou du mouvement anticolonialiste en Israël, ils avaient au moins autant retenu les sirènes qui sonnent, et il n'y a eu quasiment pas de morts en Israël pendant cette guerre. Il y a eu des soldats qui ont été tués, une soixantaine, mais les civils, il y en a eu 3 ou 4, mais pas les 2140 morts à Gaza sous les bombardements israéliens. C'est-à-dire, il y a une espèce d'injustice historique qui fait que ce qui prend le pas dans la tête des Israéliens, quand il y a une situation de guerre et d'attentat, c'est les retrouvailles, je dirais, tragiques avec le traumatisme de la Shoah. Quand on a en tête ces différents éléments, absence d'alternative, manipulation et background, si on peut dire, Shoah, on comprend que cette opinion ait du mal à prendre ses distances avec le gouvernement.
Alors, finalement, et c'est la question que j'allais poser, le camp de la paix, il a disparu, Jean-Paul Chagnolot, avec l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995 ?
Je ne daterai pas de l'assassinat de Rabin. Je crois que, il y a, là encore, dans les séquences que j'évoquais, il y a des sous-séquences. Je pense que le camp de la paix existe encore après, dans des conditions difficiles, mais tout au long d'Oslo, il y a encore des initiatives, il y a encore de l'espérance. Enfin, il est assassiné le 4 novembre 1995. Shimon Peres n'a pas été capable, contrairement à ce que la veuve de Léa Rabin lui disait, permettait de faire le nécessaire, en particulier des élections qui auraient été immédiate. Anticipées, et ce qui aurait permis sans doute à la gauche qui existait à ce moment-là de garder le pouvoir, alors qu'il a été battu finalement quelques mois plus tard par Netanyahou. Faut pas oublier qu'il y a l'assassinat de Rabin le 4 novembre 1995 et des élections, j'allais dire présidentielles, des élections du premier ministre au suffrage universel direct, c'était une réforme constitutionnelle en Israël, qui a fait qu'en mai 1996, donc 6 mois plus tard, c'est Netanyahou qui l'emporte sur Shimon Peres. Et donc le camp de la paix, il est encore là pendant quelques années. Je pense que la rupture, c'est à partir du moment où il y a... alors ça commence, c'est vrai, en 95, moi je me souviens de gens qui me disaient, mais il y a des attentats en 1995, alors que nous sommes dans une situation de paix. Je me souviens très bien de personnages politiques, comme par exemple Ehud Lankri, qui me disait ça en 95. Donc c'est vrai qu'il y a une fragilisation inouïe. Mais la coupure, la rupture, à mon avis, c'est à partir 2000. De 2001, c'est-à-dire 2000-2001, l'intifada. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis israéliens de gauche, mais de gauche mérette, c'est-à-dire un parti qui aujourd'hui est vraiment très marginalisé, qui était à l'université avec moi, et qui me disent en 2001, heureusement que nous avons Sharon qui vient de gagner les élections, entre guillemets, présidentielles. Il est élu Premier ministre au printemps 2001. Et là, il y a la rupture. Et je pense que la fracture, rupture entre les deux sociétés, elle date vraiment de cette intifada qui a été catastrophique, là. Le fait pour le Hamas et un certain nombre d'organisations palestiniennes d'aller faire ces attentats suicides en Israël même, c'est absolument tragique. Et je pense que la coupure, elle est là. Et depuis, c'est fini, quoi. Et évidemment, la droite nationaliste et Sharon en particulier, car c'est lui qui est au pouvoir en ces années-là, va pouvoir mettre le paquet sur la sécurité. Mmh. La rupture, elle se fait là. Et à partir de là, c'est fini. Et c'est pour ça, je m'arrête là, que je pense que c'est important de réfléchir en termes de séquence, et cette séquence, elle date de 2001. Aujourd'hui, de 2001 à 2017, nous y sommes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois effondrement du camp de la paix, et il y a cette rupture que j'évoquais, et il y a cette accélération pas possible de la colonisation. Mais quand on dit colonisation, j'insiste, pas simplement matériel, aussi dans les esprits, quoi. C'est vraiment quelque chose de très grave.
Dominique Vidal.
Il y a des points de repère très clairs, pas des instituts de sondage. Non, il y a un institut de recherche sur l'opinion israélienne qui se trouve à l'université de Tel Aviv et qui montre, je rentre pas dans le détail, que à partir de la première intifada en 1987 jusqu'au déclenchement de la seconde intifada en 2001-2002, on a en permanence une majorité d'Israéliens, une majorité nette, favorable au retrait d'Israël des territoires occupés, pour l'essentiel, à la création d'un État palestinien et qui même envisage un peu moins majoritairement une solution pour Jérusalem. À partir de l'échec du sommet de Camp David et de l'éclatement de la seconde intifada et des attentats kamikazes en série, on est dans une situation où on sent qu'on est tout juste, mais tout juste pas seulement sur ces questions-là, sur des questions beaucoup plus graves. Par exemple, 48% des Juifs israéliens se prononcent en faveur de l'expulsion des Arabes israéliens. Ça, c'est quand même un point extrême de radicalisation. On sent un affaissement, disons, de cette opinion pacifiste. Mmh. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est trop tôt pour en tirer les leçons, mais depuis l'affirmation annexionniste de l'extrême droite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Une partie de cette opinion qui était un peu réservée, elle s'affirme contre l'annexion. Très nettement, il n'y a que 38% d'Israéliens aujourd'hui favorables à l'annexion. Mais s'il y a annexion, ils sont 69% à être hostiles à ce que les Palestiniens aient le droit de vote. Donc on a quelque chose qui bouge, et peut-être que la première grande manifestation qui a eu lieu il y a quelques semaines à Tel Aviv, elle est le reflet de ce mouvement. La preuve que quelque chose bouge, c'est l'accumulation de lois liberticides que l'extrême droite fait voter à la Knesset. Des lois stupéfiantes. On interdit la commémoration de l'expulsion des Palestiniens en 48. On permet aux députés, à 90 députés, d'exclure les 30 autres députés de la Knesset. Ça n'existe nulle part au monde. Etc, etc, je ne veux pas le tour. Mais on a, en gros, tous les deux mois, une nouvelle loi liberticide. Quand un gouvernement assurait d'une telle majorité, parce qu'elle est nette, dans la Knesset, prend le soin de multiplier ses lois, c'est qu'il se prépare à devoir, le cas échéant, faire face à une montée d'une opinion négative. Donc on a là quelque chose qu'il faut suivre sans s'engager sur les leçons à en tirer, mais c'est important, je crois, de le noter.
Alors, je vais vous repasser la parole, Jean-Paul Genelot. Je voudrais juste que d'ici la fin de l'émission, on ait le temps, peut-être rapidement, de parler des Palestiniens, leur désunion dans tout ce contexte. Et ce boulevard qui s'offre aujourd'hui, on l'a abordé rapidement dans la première partie de l'émission, ce boulevard qui s'offre aujourd'hui à Israël, avec ses alliances avec les pays sunnites de la région, dans leur opposition à l'Iran. Jean-Paul Chagnolot.
Écoutez, pour ce qui est du rapport aux pays sunnites que vous évoquiez, moi je pense qu'on peut résumer ça en une formule en disant que aujourd'hui, tout est en place d'un point de vue géopolitique, en dépassant les conjonctures actuelles, pour que on puisse avoir, je dirais, prendre le risque de la paix. C'est mon côté optimiste. C'est-à-dire que la question de la sécurité de l'État d'Israël aujourd'hui ne se pose plus du tout dans les termes d'il y a 20 ans ou 30 ans, alors qu'on continue à avoir cette espèce de vision déformée. Il faut rappeler qu'il y a un traité de paix qui date de 1979 avec l'Égypte, 1994 avec la Jordanie, et que demain, il serait très facile d'avoir un traité de paix avec les pays du Golfe, sans compter le Maghreb, le Maroc depuis fort longtemps, etc. Donc on est vraiment dans une situation où, si on veut bien aller voir un peu plus loin, la sécurité d'Israël elle serait absolument assurée par des traités de paix, et y compris, bien entendu, un traité de paix avec les Palestiniens. Et donc, on est là dans une espèce d'absurdité, mais la sécurité d'Israël, elle est là à portée de main par la paix, comme on l'a fait avec l'Égypte, avec la Jordanie, etc. Voilà. Deuxième remarque, c'est sur les Palestiniens. Ils sont dramatiquement divisés. Divisé territorialement, on le sait, idéologiquement, on le sait, je dirais même culturellement, entre le Hamas et le Fatah, c'est très profond. Mais en plus, il y a des divisions intérieures du Hamas, il y a des divisions intérieures de l'autorité du Fatah, et puis il y a des aspects purement égoïstes. Autant on peut être critique à l'égard de tel ou tel gouvernement, moi je suis extrêmement critique à l'égard de l'autorité palestinienne, qui est dans une espèce d'aveuglement, et qui est complètement aujourd'hui, l'autorité palestinienne, et Mahmoud Abbas en particulier, décroché. Là, je ne fais rien à l'affaire. Après tout, Mandela, il a fait des choses formidables à 90 ans. Hein. C'est pas simplement une question d'âge. Mais il est décroché de la réalité du quotidien et il est extrêmement critiqué sur la question des prisonniers palestiniens, qui est fondamentale. Il n'a pas fait grand-chose. Sur ce qui se passe à Gaza, il y a des contradictions terribles parce qu'il y a quelque part une coopération avec Israël et quelque part, il privilégie une coopération sécuritaire avec Israël. On l'a rencontré, Dominique Vidal et moi et quelques autres, il n'y a pas si longtemps. Et il ne nous a parlé que de coopération sécuritaire, sans stratégie. Et je pense que donc, il y a un vrai problème, malheureusement, pour les Palestiniens. Il faut qu'ils retrouvent leur capacité à la fois d'unité, c'est fondamental, et aussi de projection dans une stratégie cohérente avec une conjoncture qui permettrait d'avancer pour les raisons que j'ai évoquées. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas.
Dominique Vidal, presque en guise de conclusion.
Un bémol, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul. Tout ça est absurde parce que la situation du Hamas ne lui permet pas de reporter les échéances. Il a un mécontentement considérable et pour des raisons bien compréhensibles. Il a perdu l'alliance égyptienne fondamentalement, même s'il y a des allers et retours. Il va perdre, de fait, l'alliance du Qatar pour des raisons qu'on comprend bien. Il n'a pas d'autre option, s'il veut garder son influence et le pouvoir, que de trouver une solution pour l'autorité palestinienne, qui, de son côté, a effectivement un peu plus de temps, n'est pas prise à la gorge comme l'est le Hamas. Sauf que on ne peut pas se battre pour un État palestinien demain si cet État palestinien n'a pas de direction. Tant qu'il n'y aura pas cette réunification, tout le reste, c'est de la théorie. La pratique, elle passe aussi par la réunification du mouvement palestinien.
Très rapidement, c'est Mahmoud Abbas le blocage, Jean-Paul Chagnolot.
J'en sais rien. C'est l'appareil. Ils sont pris dans des appareils. Le Hamas veut absolument conserver son pouvoir, ne veut pas d'élection. Ils sont coincés dans leurs appareils, dans leur rapport au pouvoir très étroit, sans vision. Et je pense que c'est dramatique pour les Palestiniens dans leur ensemble aujourd'hui. Et on peut en sortir de mille et une façons, et en particulier en remettant tout à zéro, un ressourcement qui consisterait à avoir des élections législatives ou d'abord peut-être présidentielles. Ça peut se faire. Ça s'est fait il y a maintenant plus de 10 ans, et je pense que ce serait absolument indispensable pour régénérer, ressourcer le leadership palestinien.
Un mot, Marie-France, quand on va là-bas, ce qui frappe, c'est que l'âge apparent de tout cet appareil est complètement dépassé par le foisonnement de cadres beaucoup plus jeunes qui ont commencé à prendre des responsabilités. C'est-à-dire, les possibilités existent pour un renouveau. Le problème, c'est que personne ne veut avancer dans cette direction.
Pour le Hamas, ce soit encore plus compliqué que ça, mais admettons.
C'est vrai que, pour conclure, je retiens votre crainte d'une catastrophe, parce que finalement, pas grand-chose se passe, et la pression continue de monter, avec des mesures particulièrement humiliantes. Je crois que c'est cela qu'on peut dire. Donc le mot catastrophe, c'est la fin de géopolitique. Merci à chacun. Merci à Jean-Paul Chagnolot. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, de la revue Confluence Méditerranée, et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, paru chez Actes Sud, et Dominique Vidal, journaliste et historien directeur avec Bertrand Badi, de l'État du Monde, aux éditions La Découverte. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Zoé Pallier, Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux politiques d'intégration régionale en Afrique et en Amérique latine.